Mais écoutez, je trouve que en fait, c'est une bonne introduction que tu as faite là, à la prédication. Tu le sais sans doute pas, mais c'est une bonne introduction. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous regardez le monde qui nous entoure. Moi, je trouve que les choses sont assez préoccupantes. Ce n'est pas facile de se réjouir quand on écoute France Info trop souvent ou qu'on regarde la télé. On voit des tensions qui montent partout dans le monde, on voit des volontés d'expansion impérialiste, on voit une défiance et un repli sur soi toujours plus prononcés, des crispations identitaires, des batailles idéologiques et spirituelles, notamment entre le christianisme et l'islam, pour ne pas les nommer. On sent que le monde cherche à se reconfigurer, à établir de nouveaux rapports de force. Et la relative tranquillité d'esprit qui était la nôtre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a du mal à appeler la Seconde Guerre mondiale maintenant, eh bien, est arrivé à sa fin. Ce monde a désespérément besoin du Christ. Et parallèlement, pourtant, alors qu'il a désespérément besoin du Christ, et puisque nous démarrons ce temps de l'Avent qui va nous mener jusqu'à Noël, parallèlement, on voit aussi que la foi chrétienne est moquée et méprisée, relégué à la sphère privée, il ne faudrait pas que ça sorte de la maison. Et elle est à ce point tournée en ridicule que parfois nous pouvons éprouver de la gêne, de la honte au moment de dire que nous croyons en Jésus-Christ, au moment de dire que nous allons à l'église, au hasard d'une conversation avec ceux qui nous entourent. On est donc sur le premier dimanche de l'Avent et on démarre aujourd'hui une série de 4 prédications sur les cadeaux de Dieu pour le monde. C'est des prédications qui seront suivies ensuite. Vous recevrez, si vous recevez les annonces de l'Église, vous recevrez un mail chaque jour qui sera sur la même thématique. Et donc cette semaine, vous allez recevoir des mails autour de Jésus, parce que c'est le premier des cadeaux de Dieu pour le monde, le plus grand de ces cadeaux. Et s'il y a un objectif à cette prédication, c'est un objectif assez simple finalement, c'est d'essayer de remettre un peu d'enthousiasme, un peu de conviction, un peu de fierté même, pourquoi pas, à une foi que nous pourrions être tentés de mettre sous le boisseau. Parce que Jésus a changé la face du monde. Il a changé la face du monde. Le monde ne serait pas ce qu'il est si Jésus n'était pas venu sur la terre. Et à mon avis, il ne serait pas mieux, il serait pire. Nous pouvons être fiers de notre Seigneur et de notre Sauveur. Alors on va ouvrir nos Bibles en Romains 5. Je vais lire les versets 1 à 11. Il y avait un prof à la fac qui disait on ouvre nos Bibles donc en Romains 5. Si vous n'avez pas de Bible, rapprochez-vous d'un chrétien. Bon, voilà, faites ce que vous voulez de la blague. C'est vrai que souvent je mets ça au PowerPoint, mais de temps en temps, je trouve ça bien de se dire, allez, on va ouvrir la Bible. Bon, après je dis ça, mais moi j'aime bien écouter en général, je n'ouvre pas quand quelqu'un lit, mais... Bref, Romains 5, versets 1 à 11, nous dit ceci. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise ? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est lumière et vie, pour ta parole dont le monde a tellement besoin et que tu as mis à notre disposition, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cette parole et nous te prions d'ouvrir nos cœurs, de rendre nos cœurs disponibles. Plus exactement, nous rendons nous-mêmes nos cœurs disponibles à la réception de ta parole, parce que nous savons que c'est une parole de vie qui nous fait du bien et qui nous amène vers la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors dans ce texte, on a un point de départ. C'est comme ça que je voudrais vous le présenter, comme un point de départ. Et ce point de départ, on le trouve en particulier au verset 6, « Alors que nous étions encore sans force », dit ce verset. « Alors que nous étions sans espérance, dans un monde aux multiples dangers, à l'avenir sombre, alors que nous ne savions pas à qui nous fier, alors qu'on ne parlait plus de mensonges, mais de contre-vérité ou de post-vérité, alors que les images mêmes pouvaient nous tromper, générées par l'intelligence artificielle, alors que nous n'avions plus les moyens de distinguer le vrai du faux, alors que nous étions perdus dans un monde complexe, ballotté à tout vent de doctrine, alors que chacun devenait expert en tout depuis son canapé sans avoir rien étudié, mais porté par la puissance des réseaux sociaux qui ont transformé les discussions de comptoir du PMU en vérité autoproclamée, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. » C'est une paraphrase. Qui mourrait pour un monde pareil ? Qui mourrait pour un monde pareil ? Et Paul répond, « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Pécheurs, c'est-à-dire complètement à côté de la plaque. Pécheurs, c'est-à-dire dans des logiques de vie qui mènent à la mort. Pécheurs, c'est-à-dire sous le coup d'une condamnation de Dieu qui ne supporte pas plus que nous ce monde qui part à volo. Parce que Dieu est saint et qu'il ne supporte pas le mal. Parce qu'il est la vérité et qu'il ne supporte pas le mensonge. Parce qu'il est amour et qu'il ne supporte pas la haine, pas même celle qui est cachée, tapie dans notre cœur sous forme de pensées assassines. Dieu ne supporte rien de tout ça. Mais au lieu d'éradiquer le monde, comme nous l'aurions fait si on avait été à sa place, avec nos logiques humaines, et comme c'est inconsciemment ce qui est aussi réclamé par tous ceux qui s'insurgent contre l'existence d'un Dieu qui laisse le mal se commettre, Dieu a choisi une autre voie qui est celle du salut. Celle qui consiste à dire « ce mal, je le prends sur moi », alors qu'il est le premier offensé. Il est lui l'offensé. Et il dit « je suis l'offensé et je décide de ne pas répondre à l'offense par la violence et par la force, je me laisse crucifier ». Je me charge des péchés du monde et je meurs à la place du monde afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais accède à la vie éternelle, la vie en plénitude. Et il y a des milliards de personnes dans l'histoire du monde qui ont vécu de cette source de vie là, une source d'amour comme on n'en voit nulle part ailleurs. Ces gens-là sont devenus chrétiens, ils ont placé leur foi dans le Christ, dans ce Christ crucifié, dans ce Dieu serviteur qui marche à rebours de nos intuitions humaines. Et le monde en a été bouleversé. D'abord, Jésus a donné au monde une vision divine de ce qu'est la dignité humaine. Aux pauvres, aux femmes, aux démoniaques, aux lépreux, aux malades, à tous ceux qui étaient de rang inférieur, qui étaient exclus, rejetés, jetés dehors, Jésus a dit « Vous avez de la valeur, vous avez de la valeur ». Vous avez été créés à l'image de Dieu. Jésus a mangé avec les collecteurs d'impôts, qui étaient les collabos de l'Empire romain, qui étaient détestés de tous. Jésus s'est laissé toucher par les prostituées devant les yeux horrifiés des religieux qui craignaient de se souiller en s'approchant trop près de ces femmes pécheresses. Jésus a guéri ceux qui étaient atteints de la lèpre. Il a guéri la femme qui avait une perte de sang pour qu'ils puissent regagner la communauté humaine. Jésus a chassé les démons pour que les gens puissent retrouver leur pleine liberté. Et Jésus a brisé le mur de séparation entre les juifs et les non-juifs et au-delà d'eux, entre les ethnies. Jésus a ramené les morts à la vie. Jésus a dit ces choses et a fait ces choses il y a 2000 ans. Et 2000 ans plus tard, je crois que quand je fais cette énumération, on sent encore à quel point ses gestes et ses paroles sont subversifs. Mais alors imaginez à l'époque, imaginez dans la structure hiérarchique de l'Empire romain ou même dans celle du Temple de Jérusalem, comment pouvaient être reçues des paroles comme « N'appelez personne père sur la terre parce que vous n'avez qu'un seul père, il est dans les cieux, vous, vous êtes frère ». Imaginez comment, dans des lieux où se pratiquaient des sacrifices d'enfants encore peu de temps auparavant, c'était le cas dans les pratiques idolâtres cananéennes, pouvaient être entendues des paroles comme « Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. » Ça, c'est des paroles de Jésus. Il faut le faire quand même. Imaginez ce que la foi en Jésus pourrait radicalement changer dans une société comme l'Inde, avec ses castes et ses intouchables, des gens qu'on ne peut pas toucher. Jésus a fait émerger au cœur de ce monde la notion de dignité humaine. Il a initié la lente abolition de l'esclavage et des pratiques touchant à l'intégrité physique, morale et spirituelle des personnes. Il a fait naître dans les consciences l'idée que tous les êtres humains ont des droits. Ils ont des droits, tous, quelles que soient leurs conditions. Freedom House, qui est une ONG indépendante spécialisée dans l'analyse de la liberté dans le monde, montre que les pays façonnés par l'héritage chrétien obtiennent de meilleurs scores en termes de liberté fondamentale. Pour une raison qui est simple, qui me semble assez évidente, c'est que la liberté, c'est ce que Jésus est venu apporter au monde. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, dit 2 Corinthiens 3:17. Là où la lumière du Christ a pénétré dans les consciences, la dignité de chaque personne s'est élevée. Jésus a aussi inspiré les institutions du soin, de l'éducation et de la charité. Évidemment, les chrétiens n'ont pas inventé la médecine. La médecine, elle est aussi vieille que l'humanité, mais ils l'ont révolutionnée, la médecine. Dans le monde gréco-romain, le soin était le plus souvent réservé aux classes supérieures, ou liés à des cultes particuliers, ou limités à des contextes militaires. Et puis, en plus, l'offre était souvent ponctuelle. Mais au IVe siècle, vous avez un évêque, l'évêque Basile de Césarée, qui va bâtir, juste à l'extérieur de la ville de Césarée, le premier complexe hospitalier au sens moderne du terme. Et il l'a fait à cause de sa foi, à cause de celui qui a dit « guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts ». Et vous aviez là un hôpital, un hospice, un centre d'accueil des pauvres, une maison pour les lépreux, un établissement de mise en quarantaine qu'on appelait un lazaret, j'ai appris un mot comme ça, vous l'apprenez aussi. Et il y avait même des logements pour le personnel. Et les historiens reconnaissent cet ensemble comme l'un des premiers hôpitaux organisés de l'histoire. Les hôpitaux construits par les chrétiens étaient ouverts à tout le monde, sans distinction, les pauvres comme les riches, les citoyens comme les étrangers, les esclaves comme les hommes libres. Beaucoup d'institutions chrétiennes fonctionnaient sur la base du don parce que, voyez-vous, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Soigner les pauvres, ce n'était pas une occasion de s'enrichir, c'était un devoir spirituel. Ce week-end, on est quelques-uns de l'Église à être au séminaire libéré qui se passe à Annecy, et l'un des enseignants disait, avec raison je crois, qu'on devrait remercier le Seigneur pour la sécurité sociale. Et c'est vrai, quand on va à l'hôpital, on reçoit gratuitement. Et quand on n'y va pas, mais qu'on contribue, on donne gratuitement. Alors je ne rentre pas ici dans le fait de savoir si l'argent public est bien dépensé, c'est un autre sujet, mais je crois néanmoins que la logique du don gratuit quand on est en bonne santé et du soin gratuit quand on est malade, c'est une logique profondément évangélique. Et pour finir, les chrétiens ont créé des structures stables, durables, professionnalisées, des hôpitaux monastiques, des hôtels-dieux, des léproseries, des hospices. Et ces valeurs et ces manières de faire ont façonné l'Empire byzantin et ensuite l'Europe médiévale. Les chrétiens ont aussi contribué à l'alphabétisation massive de la population, notamment parce que chacun devait pouvoir lire les Écritures. C'était la volonté de pouvoir faire accéder tout le monde aux Écritures. Ça s'est un peu perdu ensuite, malheureusement, mais c'est quand même revenu en force à partir de la Réforme, et c'était aussi la volonté première de l'Église catholique, je crois qu'il faut quand même le dire, si la Bible a été traduite en latin, à l'origine, c'était pour la donner au peuple, la donner au peuple entier, et puis ensuite, je ne sais pas pourquoi, ils se sont accroché au latin, là. Et c'est la Réforme qui a dit, bah non, en fait, il faut poursuivre le mouvement, il faut effectivement traduire la Bible dans la langue des pays autochtones, quoi. Si l'école du dimanche s'appelle l'école du dimanche, alors chez nous, ça s'appelle l'église junior, mais à chaque fois, on est obligé de préciser que c'est notre école du dimanche, bref. Si elle s'appelle l'école du dimanche, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elle était le lieu d'accès à la connaissance pour bien des enfants, et notamment le lieu d'accès à l'apprentissage de la lecture. Il y a plein d'enfants, évidemment, qui pendant très longtemps n'allaient pas à l'école, ils allaient dans les champs travailler avec leurs parents, et c'était à l'école du dimanche qu'ils apprenaient à lire pour pouvoir lire la Bible. Jules Ferry n'était pas encore né au XVIe siècle, et l'école gratuite et obligatoire, encore moins. Et donc, si on voulait que les gens puissent accéder à la parole de Dieu sans intermédiaire, il fallait qu'ils apprennent à lire. Et d'ailleurs, l'école du dimanche, il y a quelques siècles en arrière, ce n'était pas que pour les enfants, les adultes aussi y passaient. L'université de Bologne en Italie, toute première université en Europe, a été fondée dans le cadre de l'Église. L'université de Paris, pareil. L'université d'Oxford en Angleterre, idem, fondée par des ecclésiastiques. Et là encore, il ne s'agit pas de dire que les chrétiens ont inventé l'éducation, évidemment non, mais ils l'ont universalisée, ils l'ont rendue accessible au plus grand nombre. Les gens râlent aujourd'hui quand les écoles chrétiennes sont subventionnées par l'État, mais pendant des siècles, l'école laïque, juste, elle n'existait pas en fait. C'était l'Église qui assurait l'éducation, et les jeunes filles, par exemple, ont reçu une éducation par l'Église bien avant que l'État s'en préoccupe. Concernant les œuvres de charité, on pourrait dire eh ben, la même chose dans le monde antique. On aidait surtout la famille, le clan, les proches, mais Jésus transforme l'étranger en proche. « J'étais étranger et vous m'avez accueilli », c'est ce qu'on lit en Matthieu 25. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et alors le juif dit « Ouais, mais bon, c'est qui mon prochain ?» Et Jésus répond « C'est le Samaritain. Tiens, prends ça dans les dents et regarde s'il y a un os dedans ». Donc, les chrétiens créent des structures d'accueil pour tous, y compris les étrangers, mais aussi les malades contagieux, les lépreux, les enfants abandonnés, et toujours dans une perspective de gratuité. En fait, dans tous ces domaines, les chrétiens vont bâtir des institutions stables, professionnelles, organisées et gratuites. Et ça, c'est leur contribution au monde. On pourrait dire que c'est notre contribution au monde, si on se sent un peu concerné. On peut dire que là où Jésus a été connu et accueilli, il a laissé derrière lui des hôpitaux, des écoles et des mains généreuses, des œuvres sociales. Jésus a aussi favorisé une culture de la liberté de conscience à la base des démocraties. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que tout ça, ils le doivent à Jésus-Christ. Pour s'en rendre compte, ce n'est pas très compliqué, il me semble. Il suffit de prendre une carte du monde et de comparer les pays qui ont été façonnés par la pensée chrétienne avec ceux qui ont été façonnés par une autre pensée. Et vous verrez où se trouvent les démocraties et où se trouvent les dictatures, où se trouvent les libertés individuelles et où se trouvent les persécutions, où se trouve l'égalité la plus forte entre les personnes et où se trouvent les pires discriminations. Et là encore, je ne dis pas que les chrétiens ont toujours été des champions de la liberté et de la démocratie. On sait bien que l'Église, par exemple, a soutenu la monarchie, qu'elle ne s'est pas toujours trouvée du côté non plus de la liberté de conscience, notamment parce que le nationalisme chrétien reste une grande tentation, la volonté d'imposer la foi par la loi est une tentation. Mais pour reprendre ce que disait Paul, ce que disait Paul dans ma prédication, ça fait très présomptueux, la citation de Paul que j'ai utilisée dans ma prédication de la semaine dernière, je dirais ceci, « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle », tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle, leurs intentions ne sont pas pures. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Et moi, je m'en réjouis aussi parce que là où le Christ est annoncé, même s'il est annoncé de guingois, l'évangile est semé et il finit par tomber dans la bonne terre. Et alors, c'est inéluctable, c'est inarrêtable, la liberté est en marche, quand bien même l'Église elle-même s'y opposerait. Parce qu'à la fin, il va bien falloir qu'elle s'habitue à voir advenir ce qu'elle prêche. Et ce qu'elle prêche, c'est que l'être humain est responsable devant Dieu. Et donc, il est remis en selle dans l'exercice de ses responsabilités. Il ne peut pas se soumettre à l'esclavage d'un être tout aussi pécheur que lui, par exemple. Ce qu'elle prêche, c'est que le pouvoir politique n'est pas un pouvoir absolu, parce qu'au-dessus du roi, il y a le roi des rois. Il y a un autre roi qui règne au-dessus des rois. Et qu'en dessous du roi des rois, finalement, il n'y a que des créatures qui, si elles reconnaissent la royauté de Jésus-Christ, ne deviennent pas autre chose que des frères et des sœurs dans la foi. Il n'y a pas de roi soleil dans l'économie du royaume de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Ce qu'elle prêche, l'Église, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça, ça ne sort pas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'abord, ça sort d'abord de la Bible. Et toutes ces choses façonnent les sociétés. Selon The Economist, les démocraties complètes, c'est-à-dire avec une liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté religieuse, avec des institutions politiques stables et transparentes, avec un contrôle parlementaire, une culture politique démocratique et un état de droit solide, sont presque toutes de tradition chrétienne. Là où la liberté religieuse est la plus élevée, ce sont dans les pays de tradition chrétienne. Là où la condition des femmes est la meilleure, ce sont dans les pays d'héritage chrétien. Et petite parenthèse, toute petite, en 2024, la France a été dégradée. Elle est passée de démocratie complète à démocratie imparfaite du fait des difficultés de gouvernance et de la perte de confiance citoyenne. Tout ça pour dire que rien n'est acquis, y compris dans des pays, je dirais, de tradition chrétienne. Il y a un visuel qui circule régulièrement sur les réseaux sociaux et qui dit « Si la Bible était un conte de fées, elle ne serait pas interdite dans des dizaines de pays. » On n'interdit pas un conte de fées. Dans certains pays, comme la Corée du Nord, la Somalie, l'Afghanistan ou le Yémen, la possession d'une Bible peut entraîner la prison, peut entraîner même la mort. Les régimes totalitaires savent. Ils savent le danger qu'il y a pour eux-mêmes à diffuser la parole libératrice du Christ au sein d'une population asservie. Et évidemment, ils n'en veulent pas, parce que là où l'Évangile façonne la conscience, la liberté s'enracine. Dignité humaine, soin des personnes, liberté. Ces trois contributions du christianisme au monde sont, je crois, immenses, gigantesques. Et pourtant, aucune d'elles n'est le cœur du cadeau de Dieu. C'est pourtant là-dessus que j'ai passé du temps à prêcher. Aucune d'elles n'est le cœur du cadeau de Dieu. Tout ça, ce sont les fruits, les fruits. C'est ce qui tombe de l'arbre. Et l'arbre, c'est là le vrai cadeau de Dieu. Et ce cadeau, il a une forme inquiétante, il a une silhouette macabre, en fait. Cet arbre-là, il est en forme de croix, et sur cet arbre-là, il y a un homme qui a les mains et les pieds cloués. Il porte sur lui nos maladies et notre péché. Les hôpitaux soignent le corps, mais ils ne soignent pas le cœur. Les écoles enseignent, mais elles ne sauvent pas. Les œuvres sociales nourrissent, mais il faut y revenir chaque jour. Jésus, lui, déchire par sa mort le rideau du temple. Jésus nous permet d'accéder à Dieu. La séparation n'est plus. Et il offre à qui place sa confiance en lui le pardon, la paix, la réconciliation et la vie éternelle. Et celui qui reçoit cela se met à marcher à sa suite et Jésus dit de lui cette chose extraordinaire « Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. » Et il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Je crois qu'on en a eu un exemple dans le témoignage de tout à l'heure, de gens qui se mettent à rendre grâce à Dieu alors qu'ils ne croient pas en lui, ce qui est quand même, bon, voilà, ces choses arrivent, parce qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils reconnaissent là la grâce d'un Dieu qui les dépasse. Nous ferons les œuvres que Jésus a faites, et même de plus grandes. Alors on n'a vraiment pas à rougir d'être chrétien. Dans un monde cynique, soyons des visages d'espérance. Dans un monde dur, ayons des paroles apaisées. Dans un monde divisé, soyons des réconciliateurs. Dans un monde malade, apportons la guérison. Et évidemment, ça peut être dès cette semaine. En fait, ce temps de l'Avent, je crois, est un temps propice pour ça. Parce que je crois profondément que les gens, derrière tout le faste de Noël, derrière tous les cadeaux, toute l'exubérance, sont à la recherche de sens. Et que le sens, on peut le leur apporter, nous. Alors, ça peut être cette semaine, ça peut être ce mois-ci, sur le temps de l'Avent, qu'on apporte toutes ces choses. Ça peut commencer par un geste, par une attention, par une parole toute simple qui chacun dise « Tu as du prix pour Dieu, tu as de la valeur pour Dieu. » Et ce Noël, Jésus veut te rencontrer. Noël, ça veut dire le jour de la naissance, en fait. Ça vient du latin, c'est un dérivé du latin. Le jour de la naissance. C'est évidemment le jour de la naissance de Jésus, en tout cas c'est ce qu'on célèbre, mais je crois qu'on peut aussi voir ça comme le jour de la naissance de ceux et celles qui nous entourent et qui ne sont pas encore nés spirituellement. Je vais prier. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser avoir par l'ennemi qui nous pousse à avoir honte de notre foi parce que les gens autour de nous s'en moquent, la ridiculisent, alors que c'est par cette foi-là que le monde a été façonné de bien des manières et on en a vu trois aujourd'hui dont vraiment nous pouvons être fiers. Non pas fiers de nous, de ce qu'on fait, ou de je ne sais pas quoi, avec un orgueil mal placé, ce n'est pas ça, mais fiers de ton apport au monde, de la liberté que tu amènes dans les cœurs et qui se manifeste jusque dans l'organisation des sociétés, du soin gratuit que tu amènes, que ce soit par les hôpitaux, que ce soit par des miracles, peu importe la manière, de toute façon, à la fin, c'est toi qui guéris. Seigneur, Nous vivons, nous en particulier, dans une société qui a été tellement façonnée par la foi chrétienne qu'en fait, elle est tellement partout qu'on finit par ne même plus la voir, ne même plus se rendre compte que tout cela, on te le doit à toi et que c'est à toi qu'on doit rendre gloire. On doit te rendre gloire, Seigneur, pour l'accès aux soins gratuits. On doit te rendre gloire pour la liberté qui est la nôtre dans ce pays encore. On doit te rendre gloire pour toutes ces choses-là, Seigneur. Alors, nous ne voulons pas courber la tête face aux moqueries. Nous ne voulons pas avancer non plus de façon orgueilleuse, mais simplement de manière assumée. Nous sommes chrétiens et heureux de l'être parce que nous sommes fiers de toi, Seigneur. Fier de notre Dieu, qui accomplit toutes ces choses-là, qui sont des miracles. Quand on regarde comment les choses se passent dans d'autres parties du monde, on se rend bien compte que ce n'est pas un dû, mais que c'est une grâce qui vient de toi, et une grâce à laquelle on accède au moyen de la foi. Seigneur, nous te prions pour que tout ce temps de l'Avent, eh bien, nous puissions être simplement témoins de qui tu es dans nos vies. Témoin de ta puissance de résurrection, de ta puissance de guérison, guérison des cœurs d'abord, Seigneur, et qui se manifeste parfois autrement aussi dans la guérison des corps. Mais d'abord la guérison des cœurs, celle qui nous permet aussi de traverser les tempêtes sans être désespérés, comme Paul l'a dit aussi tout à l'heure, Seigneur. Écrasés, mais pas désespérés. Nous sommes avec une espérance ferme et certaine en toi, Seigneur, et dans ta puissance de résurrection. Nous savons que quel que soit l'hiver que nous traversons, le printemps viendra, Seigneur. Peut-être que ça sera après notre mort physique sur cette terre, mais en tout cas, le printemps arrive. Il est là, il est devant nous. Et voilà, nous ferons partie des ressuscités. Dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, nous vivrons auprès de toi, Seigneur, et cette espérance-là nous porte dès maintenant dans tout ce que nous traversons. Alors dans ce monde qui se désespère, dans ce monde qui a peur, qui est dans la crainte, qui voit l'obscurité s'avancer, Seigneur, nous voulons être cette lumière parce que tu vis en nous et que toi, tu es la lumière du monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Je crois qu'il y a un chant qui est prévu. Et pendant qu'ils se mettent en place,